Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré, petit, utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, c'est notre entrée 2025. Oui, après 18 mois d'absence. C'est les 10 ans de l'émission. Oh, que ce fut long sans vous. Et il y a du beau monde en plateau. L'équipe aujourd'hui, Noko Gabriel, Infested Grunt, Ben, Thibaut, Enflammé, Daskitch. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci à Tetalab et à Picto qui nous accueillent. Bonjour Infested.
Bonjour Xavier.
Bonjour Gab.
Bonjour à nos auditeurs.
Bonjour Ben. Bonjour Thibaut. Bonjour hôtelier du coin, donc Fatal. Il y a aussi Solarus qui est revenu. Il y a aussi des invités d'une émission qu'on va enregistrer et qu'on va diffuser bien après qui sont déjà là. Donc bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps. Ça fait bizarre de revenir ici d'ailleurs pour dans l'émission dans le créneau de jeudi 11h.
Oui, bah t'inquiète hein, on a
Non mais j'ai pas l'habitude que ce soit balayé comme ça.
T'inquiète, ça fait 10 ans qu'on est toujours sur son, on voit pas nos visages.
Et bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi que j'ai laissé en plan pendant 18 mois, sans explication, sans prévenir, sans un mot, rien. C'est pas cool. J'en ai honte. Mais la vie d'un animateur radio bénévole fait que les priorités peuvent t'éloigner du micro quelque temps. La direction de Radio FMR n'a même pas songé à m'engueuler parce que c'est le destin de tout projet associatif. Il est tributaire de la bande passante de personnes qui ne vivent pas de cette activité. 3 canicules, 4 dépressions et un nombre incalculable de cafés plus tard, j'ai enfin l'opportunité de relancer notre émission CPU. Et là, ça tombe bien, car ça fait 10 ans qu'on fait cette émission. Donc, joyeux anniversaire CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Cela fait 11 ans que j'ai lancé au micro pour la première fois « Bonjour à toi, enfant du futur immédiat » dans l'émission 5 à 7 sur FMR, tenue à l'époque par Eugène Lone. Et cette chronique est devenue l'émission CPU l'année suivante. Mais dans l'immédiat, nous allons reprendre doucement avec des sujets qui étaient déjà amorcés. Et une fois remis de notre convalescence, peut-être va-t-on remaqueter l'habillage, peut-être va-t-on repeindre le studio et le site web. Et si vous voulez d'autres émissions, on ne va pas vous demander de l'argent, mais nous vous accueillons avec plaisir si vous souhaitez participer à cette aventure. En attendant, j'ai repris le clavier, et si tu m'entends, alors cela veut dire que j'ai aussi remis de l'énergie dans tout ce qu'il y a après l'écriture. La pré-prod, l'enregistrement public, le montage, la post-prod web et la diffusion radio. Et d'ailleurs, en recommençant à écrire pour CPU, j'ai constaté qu'il devient parfois très difficile de trouver des sources fiables sur le net. Les sites d'articles entièrement rédigés par IA sont trop bien référencés par rapport à des articles réellement informatifs et plus pertinents. On se fait noyer par des machines à photocopier, parce que depuis 2 ans sont arrivés de nombreux outils pour fabriquer très facilement du contenu à vitesse grand V, design de sites inclus, et réutilisant du contenu déjà généré par d'autres IA. Ces outils complexifient incroyablement notre travail de recherche documentaire. J'en suis triste. Le Last Week Tonight de John Oliver s'est penché sur le IA slop, la diarrhée d'IA ou la bouillie d'IA. Le Monde a aussi fait un dossier fourni sur le business du brain rot, le pourrissage d'attention, parce que polluer les réseaux sociaux avec des mini-vidéos absurdes rapporte très gros. Et tant que ça rapporte, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Imagine ce que tu peux gagner à monter un site qui se fait passer pour être référent sur un domaine industriel, sans rien y connaître et sans consacrer plus d'1 heure par jour. Résultat, oui, nous nous sommes laissés submerger par l'IA à une vitesse folle. Autant la technologie nous amène généralement des trucs géniaux, autant son usage immodéré n'importe où nous prive d'intelligence réelle, tournant parfois à la désinformation. Fais une simple recherche sur un thème précis dans un moteur de recherche généraliste et tu auras les 100 premières réponses qui sont souvent des sites générés au kilomètre par LLM, Large Language Model. Crois-moi que je suis de moins en moins méprisant envers les personnes qui préfèrent effectuer une recherche via Gemini, ChatGPT ou Copilot, plutôt que via Google, DuckDuckGo et Bing. Mais si la seule alternative au pourrissement par IA, c'est la recherche par une IA, outre que la situation ressemble furieusement à une prise d'otage, c'est surtout la preuve que nous nous noyons et que nous perdons une bataille cruciale de la connaissance, sa publication et sa découvrabilité. N'empêche que, enfant du futur immédiat, puisque cette année tu rentres au collège, n'essaie pas de faire faire tes devoirs à ChatGPT, Claude ou Mistral. Ils se tromperont peut-être plus que toi, alors que tes professeurs te donnent toutes les informations parfaitement qualifiées pour ton programme scolaire. Et ces infos sont réelles, elles ne sont pas hallucinées, elles. Parce que oui, on avance, plus on aura de pages de contenu structuré en bullet point, énumératif, chapitre de liaison ponctué parfois d'emojis, mais dont la partie informative n'est qu'un lointain écho d'un contenu humain ou d'une hallucination malvenue d'un algo de probabilité. Car en ayant submergé le contenu qualitatif, les IA s'alimenteront de leurs propres hallucinations ou de celles des humains voulant les piéger. À tel point que c'est devenu une blague dans le milieu informatique. Quand plus aucun humain ne contribuera à Stack Overflow, qui comprendra ce qui fait planter le logiciel de la compta ? Luc Julia, probable co-créateur de Siri, le dit tout le temps. Les IA ne sont fiables qu'à 64%. Sauf que lui-même se trompe en ayant mal lu le résumé de l'étude qu'il cite. N'est-ce pas effrayant ? Il y a un étonnant parallèle que j'entends depuis le début de l'année. Dans le monde de la recherche scientifique, dans les sciences physiques, certains constructeurs d'instruments de mesure ultra-sensibles cherchent avec avidité des cargos en acier construits avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc avant d'être pollués par la poussière radioactive des premières explosions atomiques. Ben désormais dans le web, il existe aussi des index qui collectionnent des ressources de connaissances qui ont été écrites avant 2021 sur le web, soit avant l'arrivée massive des modèles d'IA de génération de textes et d'images pour le grand public. Comme beaucoup d'autres, nous essayons de ne proposer que du contenu sans IA. Et nous ne sommes visiblement pas les seuls. Et qu'en est-il des ressources plus récentes qui travaillent à livrer du contenu de qualité ? Elles sont noyées dans un flot d'algo amplificateurs de biais. Un responsable d'un labo de recherche me l'a dit récemment. Devant le tsunami de publications scientifiques de mauvaise qualité, flot produit industriellement par des attention whore genre Didier Raoult, il se peut que les vrais chercheurs perdent l'opportunité de lire des papiers réellement intéressants. Quand nous avons lancé l'émission CPU il y a 10 ans, c'était l'époque où l'on répondait à ceux qui avaient la flemme de chercher d'un « Google est ton ami » à moitié bienveillant. De nos jours, je ne peux que chanter les louanges à Sébastien Gavois du site d'information spécialisé Next Inc. pour avoir écrit un plugin Firefox pour indiquer si le site visité semble rédigé par IA. Mais comme son plugin fonctionne sur la base d'une liste déclarative, on n'est pas sorti des ronces. Franchement, en écrivant ça, en le relisant, en le re-relisant avant d'enregistrer, en l'enregistrant et sûrement pendant que je montrais l'émission, j'ai la très nette impression d'être un passéiste ringard. Ça me fait mal, hein. Là, je dois passer pour un type aigri, vieux, déclassé professionnellement par l'IA, dont le loisir se fait doubler par l'assistance de l'IA. Un peu comme Éric Zemmour qui découvre que Grok sur X arrive mieux que lui à faire monter la haine raciste sans faire une seule faute de français, lui. Vous imaginez le seum quand il a compris ce que c'est que le vrai grand remplacement ? Oui, enfant du futur immédiat, je me sens mal. Alors que mon intention dans cette chronique est plutôt de faire une analyse critique et de te donner un regard en coulisses sur ce que l'IA a changé pour nous par rapport à il y a 10 ans, quand nous avions lancé CPU. Maintenant, n'importe qui peut se revendiquer expert avec 30 ans d'expérience sur n'importe quel domaine technologique pointu. Tant pis si la ligne bâche qui va pondre est trop haute à rabiscoter, ou advienne ce que Jésus sauvera quand cette commande effacera un répertoire complet par effet de bord. La réponse d'une LLM, c'est de la junk food hyper transformée. En abuser te tue à petit feu. Oui, c'est ça, avoir un regard critique sur l'IA et être visionnaire. Et dans ce domaine précisément, le docteur Laurent Alexandre et Olivier Babeau sortent en octobre 2025 un livre intitulé « Ne faites plus d'études, comment apprendre à l'ère de l'IA ?» Si, si, aux éditions Buchet-Chastel. Or, le même Laurent Alexandre a écrit sur X cet été ce constat honnête.
Je suis dépassé par ChatGPT, Gemini 2.5 et Grok 4 dans au moins 99% de mes productions intellectuelles. Dans tous les domaines, économie, médecine, géopolitique, biologie, droit, oui, c'est une blessure.
C'est fou de se dire que ce bouquin du chirurgien urologue sera moins erroné que d'habitude concernant l'informatique de sa part, car il a sûrement été coécrit avec, je cite, ChatGPT, Gemini 2.5 et Grok 4. Et à ce stade, pourquoi s'embêter à acheter et lire le livre ? Autant demander à ChatGPT et consort de te le résumer. Et hop, 21,50€ d'économiser. Si tout le monde fait de l'IA, quel sera le réel facteur qui distinguera des candidats pour un poste à l'embauche? Celui qui saura mieux demander à l'IA ou celui qui a réellement de l'expérience? L'IA semble gratuite, soit, mais quand nous en serons bien addicts, arriveront les inévitables coûts d'abonnement d'IA et ils feront très mal. L'abonnement pro de ChatGPT à 230€ par mois est considéré par des financiers comme sous-estimé par rapport à son coût réel. Cette question me hante dans mes insomnies. Alors qu'on pourrait prendre du recul et dénoncer justement les abus, sans remettre en cause l'apport de ce domaine de technologie. Tiens, par exemple, dans l'industrie musicale des années 70-80, l'arrivée du cut-up, du scratch, du sampler, de la culture de la citation musicale, ou plutôt de l'emprunt, comme on disait pudiquement, ben c'est ce qui a entraîné l'émergence du rap, de la house, de la techno, de ce que l'on appelle en général le mash-up en musique électronique. Et c'est passé aussi bien par la mise à disposition d'outils que par les procès, les lois et l'évolution du droit d'auteur. C'est encore cette étape qui manque justement au LLM et à cette catégorie d'IA. Car ce qui frustre actuellement, c'est la foule d'auteurs pillés dans le texte, le code, la musique et l'image, sans rétribution équitable ni respect de leur droit moral. Ça, plus le besoin de rappeler à un usage éthique sans malveillance. Le monde de l'IA est fascinant. Les LLM ont fait des progrès absolument stupéfiants. Et leurs faiblesses aussi sont super intéressantes. La question n'est pas de savoir comment s'en passer, mais plutôt comment s'en servir avec intelligence en se disant qu'elles se trompent, peut-être, comme des humains, ou qu'elles veulent manipuler leurs utilisateurs sur instruction d'autres humains, ceux dont le portefeuille trop garni finance le fonctionnement de leur data center. Alors oui, pour être honnête, nous utilisons l'IA dans la production d'émission CPU pour la correction grammaticale, pour de la traduction, des fois pour aider des illustrations quand nous n'en trouvons pas à la licence voulue, pour faire la pige automatique de nos interviews, et si c'est pertinent, nous l'indiquons toujours dans les crédits sur la page web afin d'éviter toute confusion. Ce qui nous différencie de ceux qui n'écrivent qu'avec l'IA et l'intention, le savoir-faire, l'humour et parfois l'erreur. Parce que se tromper est humain. Et nous en sommes sincèrement reconnaissants quand nous avons des interlocuteurs humains pour compléter nos connaissances. Nous ne sommes pas les seuls. Par exemple, la Wikipédia francophone a lancé un observatoire de l'IA afin de qualifier ce qui est justifiable ou non comme usage des LLM dans la rédaction des articles. En fin du futur immédiat, un jour, l'IA pondra des analyses pertinentes avec mon regard, mon style, mon humour et ma voix, bien longtemps après ma mort. Que je l'interdise ou non de mon vivant n'y changera rien. On n'y est pas encore. En attendant, il faut tout faire soi-même dans cette radio associative.
Bon, allez, ok, GG, peux-tu me résumer cette chronique ?
Oh ben, le narrateur est un vieux mâle blanc, cis, hétéro, méprisant, incel et xénophobe, actuellement sans emploi. Il s'adresse avec un ton compatissant à une gamine de 11 ans avec des arguments claqués au sol. L'auteur justifie maladroitement son absence à ses derniers rendez-vous. La raison réelle est qu'il n'est pas capable d'avoir des réponses propres, claires, instantanées et exactes à des questions simples et légitimes dans son supposé domaine d'expertise, contrairement à moi en version premium.
Et hop, 12 minutes d'économiser, et maintenant ceci.
3 gigas par semaine, c'est ça la proposition de Najat Belkacem. 3 gigas par semaine, mais mon Dieu qu'elle est bête.
David de la chaîne Ganesh 2, 3 gigas par semaine.
C'est ce lundi qu'elle s'exprime sur un sujet qui la concerne pas. De toute façon, je suis pas certain que son avis, on en avait besoin. Elle a rien foutu quand elle avait un ministère. Pourquoi son réflexe, c'est pas de se taire? La politique, c'est devenu un PMU. Tout le monde donne son vieil avis qui pue. On laisse jamais la parole aux vrais experts. Qu'on fait des études et qui savent y faire. Quand elle a dit ça, elle a pas rougi. Elle s'est pas rendue compte de sa connerie. 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 3 gigas par semaine, c'est ça la proposition de Najat Belkacem. 3 gigas par semaine, mais mon Dieu qu'elle est bête. 3 gigas par semaine, je crois qu'en Corée du Nord, ils songent à faire la même. 3 gigas par semaine, mais bon Dieu qu'elle est bête. Mais chat, ça en est où? Ton site inclusif dont tout le monde se fout. C'est sûr qu'avec ton raisonnement, un site comme ça, ça tient pas très longtemps. Mais peut-être que tu étais très vexé que ton site pourri, personne n'y aille. En plus de ça, ça fait pas envie. Ce serait autre chose si c'était gratuit. Donc tu t'es dit, foutu pour foutu, moi je veux qu'Internet, personne n'y aille plus. Ouais, fais pas genre, t'es devenu écolo. Moi je pense que t'as surtout dit une connerie. 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 3 gigas par semaine, c'est ça la proposition de Najat Belkacem. 3 gigas par semaine, mais mon dieu qu'elle est bête. 3 gigas par semaine, si Windows se met à jour, et ben t'es dans la merde. 3 gigas par semaine, mais bon dieu qu'elle est bête. 3 gigas par semaine pour jouer à FF7, ce sera en 2027. 3 gigas par semaine, mais bon dieu qu'elle est bête.
Vous écoutez Radio Éphémère.
3 gigas par semaine.
Putain, mais il me restait du temps là, mais je jure, j'étais pas à 3 gigas. Putain, mais ça fait chier, merde.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous faisons notre programme de rentrée 2025. Oui, nous sommes de retour.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre édition de news pour la rentrée 2025 avec l'ensemble de la rédaction.
Attends, mais t'as changé la musique ?
C'est quoi cette soupasse de merde ?
Franchement, attendez. C'est ni de la soupasse, ni de la merde, monsieur. C'est du Giorgio Moroder. Le morceau s'appelle Utopia, ici en version remasterisée, avec une meilleure dynamique des plages.
Non mais franchement, de la disco au kilomètre composé par un batteur qui a loupé sa carrière de gourou, tu crois pas que j'en chie pas assez comme ça le jeudi soir sur la régie finale de Radio FMR ? Mais c'est quoi cette nappe vocale pourrie ?
Ah mais non, moi je refuse de lancer des news aussi tragiques satelles sur les trucs cheesy qui s'évadaient je ne sais comment des 70s.
Oui, remets-nous l'ancien jingle.
Non mais vous savez très bien ce qui se passe sur l'ancien jingle de news.
Tu remets l'ancien habillage sans discuter.
Ok. Alors, nous énervons pas. Donc, Pendulum, ABC News, Thème Remix, et tout. Et Zou.
And now, the news.
Et vous savez très bien ce qui se passe, ce que l'on passe à chaque fois, à tout temps. Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre édition de news pour la rentrée 2025 avec l'ensemble de la rédaction.
Devant le bazar des droits de douane décidé par Trump, le fonctionnaire ordinateur de l'enfant, des langues à renommer sur 4 tiers. Ah mais non, franchement, tu me fais un sabotage.
Mais je te l'avais bien dit.
Tu le fais exprès à chaque édition des news, tu l'as fait exprès. Tu baisses ça proprement.
Mais tu sais très bien que le morceau est trop
puissant.
Allez. Devant le bazar des droits de douane décidé par Trump, qui exonère ordinateurs et smartphones, Delonghi a renommé ses cafetières en ordinateurs à passer le café. Très beau coup de com' et surtout superbe hack juridique, la marque de cafetière profite que la définition d'ordinateur soit applicable aux machines à café de la gamme en question des Delonghi. On attend de voir les constructeurs automobiles allemands faire pareil et aussi les avions Airbus. Dans cette campagne publicitaire de Delonghi, les maquettes des pleines pages presse sont des hommages directs aux publicités papier d'Apple dans les années 1980 et 90. On a hâte de voir les versions télé.
En juillet 2020, nous avons appris la disparition de Grégory Estrade, qui fut l'invité de la première émission de CPU. Il était un expert dans les systèmes de paiement numérique, développeur lead, puis directeur de l'innovation chez Lyra Networks, mais aussi un bricoleur allumé sous le pseudonyme de Torlus, pionnier du développement d'émulation sur FPGA et membre de l'association de rétrocomputing Silicium. Atteint d'un Parkinson juvénile, il avait organisé avec l'association France Parkinson des rencontres entre malades. Nous regrettons le départ d'un ami, nous adressons nos condoléances à ses proches et prochainement, une émission parlera d'un sujet qui le passionnait.
Le 21 juin 2025, pour la première fois, Bill Gates et Linus Torvalds se sont enfin rencontrés physiquement lors d'un repas et sans insultes ni coups. Comme quoi, Steve Jobs était absent pour cause de décès, avis utilisateur ou de Mac.
tandis qu'en août dernier, Steve Wozniak fêtait ses 75 ans, cœur au plus grand des hackers.
Drame des débats d'experts. Amaury Balmer a été invité à un débat au WordPress Camp Toulouse, au Théâtre de la Cité, en mai dernier. C'est malheureusement notre producteur Daskritch qui a mené la contradiction. Et qui n'était pas au courant que le but n'était pas de faire de l'audience façon CNews, mais d'avoir des arguments posés et de bonne foi. Bilan, un modérateur a dû porter un casque de chantier, si on a la vidéo. Une partie du public a demandé la traduction d'une phrase en occitan, « Que amat bene, castigat bene ». Plajugat, Daskritch.
Désolé. Le blog de l'éditeur de solutions de sécurisation Proofpoint.com raconte une histoire passionnante d'espionnage par des acteurs étatiques chinois visant l'industrie de fondage de puces électroniques à Taïwan. Pour résumer, la méthodologie passe par du phishing par email, des pièces email jointes piégées, des identités usurpées, un vrai travail de sape. Non seulement la lecture est passionnante, mais le site Proofpoint a aussi trouvé un nom parfait pour son article qui a du mal à ne pas nous faire rire, même après notre troisième répétition des news. Tu peux le faire, s'il te plaît.
J'arrive compris.
Bon, d'accord. Fish and chips. Et oui, ils sont très forts.
Depuis le 18 août dernier, est entré en action en Europe le règlement européen relatif aux batteries et aux déchets de ces dernières. Toutes les batteries introduites sur le marché européen devront donc désormais être recyclées. Donc, déjà, on espère récupérer un quart du lithium utilisé dans les batteries d'ici 2030, et ensuite, les engins électroniques jetables genre vapoteuse puff, c'est fini si la collecte n'est pas prévue par le fabricant. D'ailleurs, j'aimerais bien que quelqu'un se lance dans le recyclage des vapeurs de vapoteuse gouffre à chimie, c'est trop ignoble.
La norme PPOE ne l'avait pas prévue. La SNCF innove en faisant passer 25 kV à travers un câble Ethernet de base. Bilan, une ETT suite à la très grosse châtaigne. On explique l'exploit. Des tests entre deux nouvelles locomotives impliquées de synchroniser les tableaux de bord. À cette fin, un câble Ethernet a été tiré entre les deux cockpits. Mais comme il était trop court, une autre solution a été choisie. Tout en laissant connecter à un tableau de bord le câble. Et à l'autre bout, ballon dehors par la fenêtre. Évidemment, durant l'essai roulant, avec le vent, le câble a touché la caténaire, électrocutant sur l'autre locomotive le conducteur avec du 25 kV. Maintenant, le conducteur est au courant. Un câble non utilisé, il vaut mieux le débrancher et le ranger.
Au courant, oui, fallait vraiment. Dans un excès de clairvoyance, après avoir été maintes fois manipulé mentalement contre sa volonté, nous assistons impuissants au premier suicide d'une intelligence artificielle. Le 6 juin dernier, Grok, le service d'IA inclus dans X ex Twitter, après avoir expliqué une blague sur l'addiction à la kétamine d'Elon Musk, commente en ces termes que je cite. Si les controverses peuvent temporairement booster l'activité sur X, l'algorithme favorisant des contenus clivants, l'audience réelle est stagnante. Des utilisateurs et des annonceurs quittant le service à cause de sa polarisation. Une stratégie peu convaincante, perdante à long terme. Si Musk est tombé dessus, il a fallu pas mal de tarpés pour le calmer et vu que la bœuf rend parano, on en sait ce que c'est sur FMR, les réunions d'après n'ont pas dû être drôles du tout.
Le 18 février dernier, sur GitHub, sont arrivés des documents confidentiels d'une entreprise d'espionnage chinoise, avec plein de petits logiciels de hacking et une liste de personnes à compromettre, dont deux assez connues de Sciences Po. Vous savez ce qui est suspect dans cette affaire ? Comment ces données ont pu arriver sur GitHub, un service qui n'est officiellement pas accessible pour les citoyens chinois ?
Les services de l'emploi autrichiens viennent de dévoiler leur dernière innovation. Un agent conversationnel utilisant la technologie de ChatGPT pour orienter les chômeurs et les étudiants. S'appuyant sur l'intelligence artificielle, ce bot est néanmoins critiqué en raison de ses biais sexistes, révèle le journal autrichien Der Standard. Le bot du pôle emploi autrichien refuse d'orienter les femmes vers l'informatique. Qui a oublié que l'IA est une machine à amplifier les biais humains ?
IA toujours, les ayants droit préparent une class action monstre devant les tribunaux américains, devant le pillage plusieurs fois démontré d'œuvres protégées par copyright. 7 millions d'ayants droit plaignants, potentiellement dédommageables à $150,000 chacun. Oui, je vous laisse avoir le vertige en faisant le calcul de tête. Pour l'instant, seul Anthropic est visé par ce procès et est allé vers une conciliation à $1,5 milliard au moment où nous passons sous presse. OpenIA et les autres doivent faire virtuellement dans leur slip.
Dans le dernier film Marvel, le reboot des 4 Fantastiques Premier Pas, réalisé par Matt Shackman, le robot Herbie est un vrai robot physique. Une très bonne nouvelle qu'on en revienne à des effets spéciaux physiques après 20 années de saturation d'écran vert et de CGI. La vidéo de démonstration est à voir, car ce personnage est une réelle merveille d'ingénierie, avec plein de détails amusants qu'on ne distinguera jamais en Blu-ray.
Le système radio européen protégé et chiffré TETRA, utilisé par les secours, était atteint d'une faiblesse dans son chiffrement, faiblesse intentionnelle à des fins de surveillance. L'organisme normalisateur européen a proposé d'ajouter une couche de chiffrement pour y pallier. On a découvert lors de la DEFCON 2025 que ce chiffrement-là était aussi by design volontairement affaibli. Ben alors, on attend quoi ? Qu'à la prochaine descente de police à Arnaud Bernard, on trouve un scanner de police chez les vendeurs de clopes ? C'est quand que les personnes politiques vont enfin comprendre qu'affaiblir un système de chiffrement par des backdoors d'usine pour faire de la surveillance est incroyablement dangereux ?
Twitter maintenant ! Twitter, vous réagissez pas ?
Ben, ça fait deux semaines qu'Elon Musk n'a pas sorti une connerie qui dévalue X ex-Twitter. Donc la vanne n'a peut-être pas le temps de se périmer cette fois-ci.
Moi, j'ai pas envie de faire le pari. Après l'enregistrement, c'est moi qui remonte le tout et qui dois en cata recouper et remonter l'émission parce que c'est plus d'actualité et remonter. L'information continue sur Radio FMR quand la musique s'arrête. Et pour CPU, retrouvez-nous sur Blue Sky, compte cpu.pm, comme notre site web. The flesh will stern. The rotting emptiness will bleed through all the walls. Now and forever, bring me your dead. The guts and grime will shine immortal in red. Ground up bones and joint of flesh is what I need to make this concrete and fully obscene. I need all them bones. I want all the rotting corpses. Featuring George Fischer par Pain. Ils sont au concert au Bikini le 2 octobre avec en première partie le groupe italien Metal au Chiptune Master Boot Record.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Miaou, miaou, point 4, le réseau social. social que pour les chats.
Ouais, en fait, ce sont des gens qui postent des photos de leurs chats. La seule interaction possible pour les humains et les robots, c'est liker et envoyer une photo de chat. Ils promettent pas de prise de tête, pas de feulement, pas de griffure, pas de morsure, pas d'allergie.
Miaou, miaou, point 4, le réseau social que pour les chats.
Miaou, miaou, point 4 est techniquement le premier réseau social en service cloud, ronronade as a service.
Miaou.
Un réseau Ting pur, calinade virtuelle. Un projet soutenu par le Theta Lab, parce qu'on manque de chats dans le local.
Miaou, miaou, point 4, le réseau social que pour les chats.
Oui, parce que derrière, il y a tout un mécanisme de modération safiste qui exclut chiens, humains, slogans politiques et photos de cartes électroniques sans éléments faits l'un pour l'autre.
Miaou.
Non, non, miaou, miaou, point 4, c'est une vraie adresse web et un vrai projet social. Ça, c'est une fausse pub, mais pour le coup... Et oui, 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 je te nourris. Attends, arrête de me mouler comme ça.
Miaou.
N'oubliez pas de rentrer notre code promo.
Miaou, miaou, point 4, le réseau social que pour les chats.
Ouais, miaou, miaou, point 4. Ah oui, c'est gratuit, il n'y a pas de pub.
On a une séquence qui s'appelle le courrier des audilecteurs et on voulait ça tout simplement parce que ça nous permet, dans le cadre de notre procédure d'amélioration progressive de notre qualité de service, de savoir ce que vous pensez de notre émission. Et à ce sujet, sur Mastodon, Alain Yann nous a écrit
« Oh to Radio Amateur, article très cool et sympa. Merci CPU, Daskritch et Radzilla pour avoir mis en partage cet article. Ça donne envie de s'y mettre. »
Alors, mille merci, sauf que la chronique est d'Infacet Grunt.
Oui, ça c'est vrai.
Et il faut qu'on passe notre licence radio amateur, puisque oui. Justement ce que nous a dit Radia, c'était juste au moment de la diffusion.
Elle était devenue gratuite, ouais.
La licence était devenue gratuite, depuis le temps. Suite à notre tir groupé de news de janvier 2024, PTDT sur Mastodon nous a écrit à propos de notre phrase « Il y en a qui font un concours de kiki avec leur fusée ».
Je sens une certaine obsession du rédacteur toulousain pour tout ce qui se dresse, car les chats ne peuvent pas se dresser.
TPTD, on lui posera la question. Pour être honnête, c'est Gabriel qui a lu le texte et il a fait deux fausses prises où il a dit non pas kiki, mais zizi. C'était mignon, mais c'est très impoli chez les humains de montrer leur kiki ou leur zizi. Oui, il a fait la coucouille deux fois. Sur LinkedIn, en commentaire de la chronique sur Opération Triangulation de l'émission 217 Man Lost and Found, Yunut Mial CA a commenté
une très bonne et passionnante émission de CPU.
Mille merci et vous êtes bienveillants parce que cette émission, j'ai dû la remplir en cata d'une fausse pub, tiens encore, bricolée un peu par hasard. Oui, la fausse pub France Baise était à la fois un coup d'énervement contre le vocabulaire guerrier sur la colonisation des vagins des femmes et les différentes lois voulant censurer Internet, mais aussi pour combler 7 minutes de trou. D'ailleurs, du coup, on a plus de fausses pubs d'avance, la régie fake pub s'emballe un peu. Nous avons reçu Jordan Mechner. Il a eu l'amitié de relayer la promo de notre émission sur LinkedIn avec ce message.
Ce fut un grand plaisir d'être invité à Toulouse pour parler en détail de jeux vidéo, de bandes dessinées et de jouer direct à Karateka sur un bon vieux Apple II, puis de présenter le film Casablanca, tout juste remasterisé sur le grand écran d'un magnifique cinéma art et essai.
Oui, mille merci à nos partenaires, à l'association de Retro Gaming Silicium, à la librairie de bandes dessinées Terre de Légende et au cinéma Utopia Bordeaux Rouge. Ils nous ont franchement beaucoup aidés. On a eu cette chance incroyable de cette restauration 4K faite par Warner. Le film, il l'avait pas revu la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était dans les années 80 sur VHS, et c'est un film qui l'avait énormément marqué. Et là, c'était juste... On lui a laissé le choix, on lui a dit quel film vous aimeriez revoir, et il a sorti ce film. Et là, coup de bol, voilà, on l'avait sous la main. On a fait une installation avec les ordinateurs sur place et tout ça, une rencontre avec le public, et il a dédicacé les albums. On aimerait refaire une journée masterclass, même si quand même on va un peu le faire avec le FPGA. Mais ça demande beaucoup de temps et de moyens à notre échelle. Et puis là, on a eu une conjonction astrale qui était juste extraordinaire. Nous avions une occasion en or. Donc, mille merci à vous, Jordan Mechner. Frédéric Hardy a d'ailleurs eu ce sympathique message sur Mastodon à propos de cette rencontre.
Merci Daskritch pour la référence que je ne connaissais pas. J'ai passé un très bon moment avec le prince. Jordan Mechner et le souvenir des heures passées à tenter et retenter la traversée des niveaux de ce jeu, sûrement LC3.
Alors, je regrette d'être saturé de travail pour ne pas avoir mieux préparé sa venue et l'émission, mais je me suis souvenu de tous ceux qui m'ont inspiré, qui nous ont inspiré et qui sont partis avant que je les en remercie. On ne pouvait pas louper cette occasion. Bruno Tréguier sur Blue Sky nous a engueulé en ces termes.
Bon, en tout cas, moi, j'applaudis. J'apprends plein de trucs en écoutant vos podcasts. Bon, je ne suis pas un peu perdreau de l'année. J'avais déjà quelques billes sur certains sujets, QR code, URL, etc. Mais ça fait plaisir d'avoir une info complète qui permet de combler mes lacunes.
On n'est pas un podcast, on est une émission de Radio Scroon Union avec un replay complet sur notre site cpu.pm. Ça sent pourtant. 1. On ne fait pas de pub pour NordVPN. 2. Nos scripts sont préparés. 3. Il y a de la musique, elle est en rapport avec les sujets. Suite à notre dernière émission, numéro 220, Ouvrir la pomme, sur les procédures judiciaires en cours entre l'Europe et Apple, émission qui remonte à février 2024, quel Quat a relancé sur Mastodon ?
Oui, Guillaume Tell, quand on a besoin de lui.
Ah oui, tiens, j'ai pas vérifié la situation en Suisse. Linette Ogel a laissé ce commentaire spam suivant sur la page que nous avions malicieusement titrée « Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, /wp-admin.php ».
Wow, blog ini seperti petualangan fantastis melayang ke galaksi dari keajaiban. Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan roller coaster yang mendebarkan bagi pikiran.
C'est du malaisien et la trad est assez amusante.
Wow, ce blog est une véritable aventure, comme une plongée dans une galaxie de merveilles. Étourdissement, son contenu exceptionnel est une véritable montagne russe pour l'esprit, suscitant l'enthousiasme à chaque fois. Montagne russe que ce soit pour votre style de vie, ce blog est une source d'inspiration.
Nous remercions les robots spammers d'avoir parfois tant à propos de nous mettre du baume au cœur à l'ouvrage. C'est tellement beau que j'ai envie de passer de la musique.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre édition de news pour la rentrée 2025 avec l'ensemble de la rédaction.
Du coup.
Ok.
David Kahn, l'historien de la cryptologie, est décédé en janvier 2024 à 93 ans. Oui, on a sacrément du retard. Tiens, on n'avait pas une collection de petites histoires avec cryptographie en retard.
Figure-toi qu'il est juste derrière toi, celui qui est en train de l'écrire.
C'est qui ?
Thibaut.
Ce jeune.
Coucou. Tout à l'heure, après les news. 340 candidats à une offre d'emploi ont appris ensemble qu'ils étaient recalés. Ils l'ont appris ensemble, car la réponse a été faite par email avec tous les recalés en copie ouverte. Réponse qui disait à tort que ce courrier leur est personnalisé. Du coup, ils sont concertés pour se retrouver dans un bar. L'entreprise est toulousaine et recrutée un chargé de communication digitale en CDD. À mon avis, ils vont vite en avoir besoin de deux. Le rendez-vous des recalés sera fin septembre, début octobre dans un bar de l'agglomération. Pour l'instant, on ne dit pas quelle entreprise il s'agit. Sachez qu'ils ont dû ouvrir une procédure auprès de la CNIL pour effectivement fuite de données, avec donc leur DPO qui est allé faire des explications à leur service RH et pas que. Bravo. Et courage donc à ces 340 candidats malheureux qui au moins font contre fortune ripaille. Bienvenue à Toulouse.
Allez. Oh non, mais c'était énorme. Allez. La eFoundation de Gaël Duval, qui édite entre autres l'OS orienté vie privée pour smartphone iOS, est en train de concevoir un jeu sur plateau pour apprendre la vie privée face à un smartphone. Edge of Data est actuellement en bêta. Le jeu est à télécharger en PDF et à imprimer sur carton fort. Disponible en anglais, français et allemand. Un outil ludo-éducatif qui va encore ne pas plaire à ceux qui veulent de la surveillance totale sur Internet.
Le secteur du ransomware ne va pas très bien. L'un des plus gros groupes criminels, Hunters International, annonce qu'il pivote son business model. Il s'appellera désormais WorldLeak et se concentrera sur la revente de données personnelles.
Salutations à une entreprise toulousaine qui recrute des chargés de communication digitale. Belle saloperie sur la plateforme de mise en relation pour freelance Malt. Sous prétexte d'une mission d'une journée ou d'un test d'embauche, de faux clients tentent de verrouiller le PC du développeur web contacté. En gros, le développeur freelance télécharge le projet sur lequel il doit intervenir, présenté comme un site qui est tombé en panne depuis une semaine. Sauf que le package de code est un cheval de Troie qui lance derrière un password stealer planqué dans le code CSS. Seuls les devs Node.js travaillant sous Windows qui ont lancé sur leur ordinateur le script sans container ou VM sont pour l'instant visés, mais ça pourrait changer. Enfin bon, Node.js, sous Windows, qui lance un code source fourni par un étranger sans l'auditer avant. Comment dire, les mêmes devs qui sûrement utilisent Copilot ou ChatGPT pour lui demander ce qui cloche. Non mais riez. Qui regarde les dépendances NPM avant d'installer ?
Ah ben tu sais, un truc qui s'appelle Malt, moi ça finit en mise en bière. Hein.
Alerte base antivirale. La FTC américaine épingle l'éditeur tchèque d'antivirus Avast pour la vente de données personnelles. Ces données revendues proviennent de l'antivirus installé sur ordinateur ou smartphone ou du plugin pour navigateur web, sous les marques Avast et AVG. L'antivirus collecte toute la navigation web, comme le type d'appareil, le navigateur utilisé, le nom de la ville, du pays. Cette vente a été effectuée entre 2014 et 2020 et a généré plusieurs dizaines de millions de dollars en revente selon 01net. Un peu plus de 100 organisations ont pu accéder à ces données qu'Avast n'a pas pris la peine d'anonymiser, parfait pour de la publicité très ciblée. Et pourtant, dans sa communication, Avast prône la protection des données utilisateurs. Cette promesse lui vaut une amende de 16,5 millions de dollars par la FTC américaine. Ça manque d'une vraie baffe de la part de notre CNIL chéri.
Attention, c'est pas sur la revente des données, c'est sur la promesse non tenue dans la publicité qui sont épinglées.
Arrivé à dépanner Voyager 1, une sonde lancée en 1977 en patchant le code d'un ordinateur de bord à 27 milliards de kilomètres avec une bande passante rikiki et très peu de retours, la NASA a réussi à faire ce que tous les CTO de banques françaises rêvent, débugger un projet en prod depuis 47 ans en remote. La NASA aurait profité de sa fameuse pièce secrète dans le Chine Mountain Complex avec un Ouija, une plaque tournante et le tarot de Marseille, afin de ramener sur notre plan astral des bouts de mémoire de projets par des ingénieurs disparus dans un trou noir en 1994. Je suis sûr que si on demande à Trump, il va confirmer cette dernière info.
Mistral AI et Microsoft ont convenu d'une association, notamment l'hébergement de la start-up française par Azure, la solution cloud de Microsoft, laquelle est inféodée aux lois américaines. La pilule passe très mal chez ceux qui ont cru à une solution IA souveraine.
Bon ben, on va faire une prière pour Skyway.
D'Indig Nobel, des chercheurs chinois et américains sont arrivés à reproduire une empreinte digitale en écoutant le bruit de friction du doigt sur la vitre du smartphone.
Attends, Sandec ?
Oui, oui, les Chinois et les Américains. Un partout, la balle au centre.
L'Europe, encore une fois, exclue du championnat.
C'est les Chinois du FBI ?
Oula.
Espionnage toujours ! CNN a produit un article web expliquant comment les espions nord-coréens arrivaient à se faire engager par des compagnies américaines comme opérateurs ou développeurs en remote en se faisant envoyer un ordinateur portable. Ordinateur qui se retrouvait dans une ferme à laptop sur le territoire américain. En fait, il ne s'agit pas forcément d'espionnage, mais surtout d'engranger des devises américaines pour acheter des produits sensibles que la Corée du Nord ne peut acheter directement. Une technique d'espionnage économique qui ne va pas du tout aider le télétravail. Enfin, pour ceux qui en ont la chance.
Shirley Alsmonichich, recruteuse IT pétillante qu'on avait reçue à notre micro, a laissé un beau conseil sur LinkedIn.
Méfiez-vous des entreprises qui recrutent de super-héros. Elles ne recherchent pas des humains, mais des fictions, forcément source de déception. Et vous finissez par croire aux super-pouvoirs, niant vos faiblesses, vos limites, l'équipe en place. Et cette absence de remise en question fait que vous oubliez que vous êtes tout simplement un humain parmi les autres. Et un super-héros, ça a un super salaire aussi.
Tu m'étonnes, faute de super équipements, une super base et surtout une super garde-robe parce que les super méchants, ils ont des bases d'enfer, dignes de la revue Architecture et Décoration d'exception, des équipements qu'on ne verra que dans 5 ans au Consumer Show ou à Minipol, et une garde-robe des plus classes que même Anna Wintour regarde de près avec intérêt. On peut pas prendre des super-héros au rabais.
Oh, oh, sage, sage.
Ça va, il a pris ses pilules, le papy de l'âge d'argent des codeurs à cap.
Bah, j'aimais bien la garde-robe des X-Men début année 1980 et...
Oui, celle en jaune pétard, et à l'époque, Wolverine s'appelait encore Serval en France.
Sans transition, panique générale en août dernier, une mise à jour de Windows a parfois rendu des disques SSD inutilisables et donc des données... Attendez... Ah, pardon, j'ai cru que c'était une news concernant les aéroports en juillet 2024. Bon, de toute façon, c'est du Windows, hein. C'est fait pour vous forcer à passer à Microsoft Office 365.
34 ordonnances et décrets plus tard, depuis janvier 2024, les disquettes ne sont enfin plus obligatoires au Japon pour les procédures administratives. Et en même temps, les CD-ROM ne sont plus obligatoires dans les dossiers administratifs non plus. La dématérialisation de l'archipel est enfin une réalité. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, les Japonais adorent garder fonctionnelles certaines technologies désuètes. Comme par exemple le Gundam Unicorn qui s'occupe toujours de la défense aérienne de Tokyo, mais il faut dire qu'il s'y montre plus efficace que le F-35 américain.
Plus attendu que GTA 6, plus en retard que l'album de Rihanna, la nouvelle Freebox.
Tu parles de l'Ultra, la Delta au rabais ?
Non, apparemment tout le monde en attendait une autre.
Ah mais oui, elle n'était pas prévue pour quand, 2023 ?
Annoncée et annulée à l'arrache, on dirait une série Salto.
Ça a quoi ? C'est comme l'ancien Freedom Video, c'est ça ?
Oh flûte, j'ai même plus le temps d'écrire la blague, elle est déjà obsolète, c'est agaçant quoi.
En présentant sa nouvelle gamme iPhone 17, Apple a présenté l'iPhone Air qui a une particularité remarquable. Il est pliable. Un vrai vent de nouveauté chez la firme à la pomme qui manque d'innovation face à ses concurrents.
Mais il n'est pas pliable, il est juste ultra... J'ai rien dit.
Ça y est, il l'a. On l'a pourtant répété.
Les sonnettes connectées Ring d'Amazon subissent un gros retour de flamme car Amazon permet aux forces de police d'accéder à distance aux caméras installées et ceci sans mandat. Heureusement, il y en a qui ont des idées nettement plus drôles avec, comme Maple, une Australienne de 14 ans. Elle et son groupe de rock, Maple's Pet Dinosaur, ont installé leur batterie et guitare sous le porche du voisin, puis ils ont sonné chez lui et demandé aimablement l'autorisation de tourner un clip avec son Amazon Ring et son fameux fisheye. Non seulement le clip est devenu viral, mais en plus c'est du très bon son. Alors, on va longtemps entendre parler de Maple's Pet Dinosaur, le groupe de littéralement The Girl Next Door. Le titre s'appelle Lego.
Hello.
Hi, it's Maple from Next Door. Is it okay if we use your ring to make a music video, please?
Yeah, I guess.
Thanks.
Écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous faisons notre rentrée. Nous sommes en 2025, et oui, nous sommes de retour. Savez-vous qu'une célèbre marque de boissons énergisantes divertit une partie de ses bénéfices récoltés en intoxiquant à la taurine les fanatiques de la techno grindcore vers un projet réellement musical? La marque de la boisson au double taureau a monté, dans ses activités philanthropiques, un festival itinérant et un site magazine, Red Bull Music Academy. Que tu tâtes de la gratte ou que tu veuilles comprendre l'air, ce site est une vraie mine d'or. On y trouve une source incroyable de références musicales à en nourrir les chroniques mélodiques de mes camarades de radio Kinou ou du sport pour des mois. Par exemple, une longue interview de Yoko Kanno, la très discrète compositrice japonaise protéiforme, qui a entre autres produit les inoubliables bandes originales de Macross Plus, Cowboy Bebop ou Ghost in the Shell Standalone Complex. Et une autre de Robert Crumb, dessinateur emblématique du comics underground américain octogénaire, vivant dans notre région, dont la patte graphique est reconnaissable avec ses femmes girondes ou pour Fritz the Cat. mais beaucoup moins connu pour sa fantastique collection de disques 78 tours, car le dessinateur est l'une des rares mémoires vivantes des musiques populaires des paysans américains d'avant la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que la dite marque de boisson qui donne des ailes est surtout connue pour son sponsoring d'exploits sportifs ou acrobaties mécaniques de l'extrême, celle qu'un être humain sain en conditions normales ne se permettra pas, sinon suite à une intoxication des gonades sexuelles par de la testostérone allongée à de la taurine alcoolisée. Alors découvrir qu'ils ont construit une bible de la musique de manière désintéressée et qu'ils offrent stages et résidences artistiques à des musiciens prometteurs, ça nous met une claque. Donc il arrive parfois que des multinationales construisent et financent des sites de référence sur les domaines précis, par philanthropie ou par motivation de documenter leur cœur de métier. Et le budget alloué, qu'ils permettent d'y trouver des plumes d'exception, des informations et des éclairages rares, une réelle indépendance éditoriale malgré le patronage exclusif. Par leur qualité documentaire et leur budget conséquent, ces sites web en deviennent des références tellement indispensables qu'on est obligé de lier vers eux quand on commence à écrire sur le sujet. Surtout qu'aucune publicité ou paywall n'en gêne l'hyperlien. Le contenu est libre d'accès, gratuit, sans publicité. Et contrairement à Wikipédia, chaque article est signé par un auteur reconnu dans son domaine dont on peut connaître ses biais. En 2000, au plus fort de la bulle économique sur Internet, Nokia s'accapare 40% des ventes de téléphones mobiles. Et près d'un quart des équipements d'opérateurs de téléphonie. Fort d'une réserve financière confortable, Nokia lance donc un site d'information qui sera une référence discrète, mais archi-suivie des initiés dans la technologie. TheFuture.com. Un site d'information indépendant sans aucune publicité, ni même d'infomercial de la marque parrainante. Quand je plonge dans de tels sites, j'ai toujours cette impression de tenir un luxueux magazine sur papier couché en quadrichromie, haute définition avec vernis sélectif, le genre de revue éditée et distribuée par une marque, où la marque n'y fait pas sa publicité, a fait écrire des pages par des spécialistes travaillant parfois chez des concurrents et explique les standards opérés par leurs solutions. Sauf que ces magazines papier, dans le domaine du numérique, on les trouve que dans certains salons technologiques internationaux très spécifiques et très sélects, genre le Mobile World Congress à Barcelone, dont le ticket d'entrée commence à 900€, hors voyage et logement sur place. Sur le web, tout un chacun peut accéder à cette revue, peut lire ses articles sans avoir à y être invité, sans mépris de classe ou d'objet. Oui, je développe mes blagues en langage objet, je suis désolé. Parmi les plumes, outre des spécialistes techniques reconnus, on y trouve aussi des théoriciens des médias, des sociologues spécialistes des communautés, des fondateurs du site boingboing.net, des banquiers d'affaires qui montent des financements dans ce secteur, des influenceurs au sens qu'ils influencent en interne une technologie par leur vision du monde. Le genre de personnes qui, quand tu les croises, tes yeux brillent d'avoir la possibilité de discuter avec eux. Le motto du site TheFuture.com était simple. The Feature aims to be nothing less than a voice, an opinionated, independent voice for the mobility community.
The Feature souhaite se distinguer en étant une voix indépendante d'opinion pour la communauté de la communication mobile.
Et ils y sont arrivés. Le site fut couvert de prix, avec notamment deux Webby Awards, un en catégorie magazine, un autre en catégorie télécom, et il fut mis en avant par des revues prestigieuses comme Popular Science et Smart Money. À l'époque, j'étais dans l'industrie de la téléphonie mobile, et ce site m'a permis d'y voir très large. En 2004, j'avais chanté sur mon blog les louanges d'un article qui résonnait en moi. Marco Attisari souhaite que l'industrie mobile considère ses utilisateurs comme s'ils étaient des développeurs. C'était avant l'iPhone et Android. Les applications sur smartphone étaient incroyablement compliquées à installer et encore plus à développer. Cet article propose que le téléphone mobile doit être une plateforme à câble. Furieusement révolutionnaire à l'époque où un téléphone ne pouvait se connecter au réseau d'un opérateur mobile qu'après la validation du modèle par leur service technique et où toute mise à jour logicielle et tout applicatif ne pouvait y être installé sans l'accord du maître du réseau. Et oui, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne vous laissaient pas acheter n'importe quel téléphone. On imagine que derrière, la sortie du moindre modèle se jouait sur des accords financiers. Un autre article est toujours d'actualité 20 ans après. Et si la publicité passait d'abord par l'engagement utilisateur, donc par la souscription, plutôt que par le push, donc par le spamming? Vous voyez le niveau des discussions? Donc, Nokia, le fabricant des téléphones incassables, avait monté The Feature, référence intellectuelle du secteur. De telles oasis d'informations peuvent disparaître au gré des changements de politique, de communication ou même la disparition de son mécène. Et suite à un revirement de stratégie commerciale, et en étant toujours confortablement rentable, Nokia a fermé ce site en juin 2005. Pour moi, ce fut un crève-cœur. 20 années sont passées et je suis toujours en deuil de ce site car tout son contenu et ses commentaires des gens qui étaient parfois salariés ou patrons de concurrents de Nokia, toute cette richesse a été annihilée aussi sûrement que l'écrasement physique d'un disque dur détruit irrémédiablement des données. Or, comme ce site était une référence, plein d'articles et d'analyses comportaient des hyperliens vers lui qui sont donc devenus caducs. Spoiler, nous pouvons encore le consulter via archive.org. Mais voilà, il est figé pour l'éternité. On a perdu aussi les articles potentiels qui auraient pu sortir et que nous n'aurions pas forcément vus sur des sites d'information spécialisés comme The Register ou Ars Technica. À revenir sur ce site, lu avec tant de dévotion, j'ai l'impression de lire certaines revues actuelles comme Login ou d'une époque révolue comme L'Ordinateur Individuel. Pas les apos à placement publicitaire, non, ces revues qui parlent technique, où l'auteur a les mains dans le cambouis et vous emmène par la main à regarder dans les mécanismes. À les ouvrir, je me trouve téléporté dans une capsule temporelle. On y trouve une incroyable source d'informations qu'on aurait été très heureux d'avoir à l'époque. Et parfois, en lisant, on découvre ce qui est à la base des standards toujours en vigueur et on comprend pourquoi certaines technologies hype n'arriveront jamais à bien s'implémenter. Et comme ce site n'est plus qu'archivé, son contenu historique n'est plus indexé par les moteurs de recherche. C'est con parce que je sais que dedans, quelque part, au bout d'un méandre, il y a un article qui parle des évolutions de la couche radio 3G, la 3GPP pour accueillir la future 4G alias LTE et ce qui deviendra la 5G intermédiaire. Car oui, la couche radio de la 5G commence tout juste à être déployée en France en été 2025. Et si vous allez sur le site thefuture.com actuel? Non, vous n'aurez rien. C'est juste du cybersquattage avec des articles écrits en japonais par des organismes de crédit pour vous inciter à emprunter plus. Alors, pourquoi en parler? Si vous trouvez un tel site de référence, consommez-le sans modération. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si jamais se présente l'occasion d'avoir la chance de participer à une telle aventure, faites en sorte que votre contenu soit disponible dans une licence libre du type Creative Commons ou que quand le site disparaîtra, que vous ayez le droit de faire réapparaître vos articles sur un autre endroit comme archive.org ou Wikibooks. À noter qu'en France, le code de la propriété intellectuelle vous permet de republier vos propos s'ils ne sont plus publiquement disponibles pendant un an. Ce type de connaissances sourcées par des humains est devenu trop rare, surtout à une époque où trop de gens se fient bien trop à des agents LLM qui hallucinent beaucoup trop. Et je tiens à préciser que les articles et interviews de notre émission radio et du site cpu.pm sont en licence Creative Commons avec attribution et sans réusage commercial, ce qui exclut le data mining par les services d'intelligence artificielle. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX0221, rentrée 2025, partie 1. Cette release, l'équipe est composée de Infested Grunt, Thibaut, Benoît, Daskrich, Gabriel et Enflammé. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci aux équipes du Theta Lab et de Topic qui nous ont permis d'enregistrer chez eux ce soir. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/221. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, la partie 2. Nous vous donnons rendez-vous jeudi dans 15 jours à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR, le jeudi en direct, il est midi, nous retrouvons Monique Blanquet sur la scène du studio A. Et elle sera, je suppose, ravie de nous retrouver, ou pas. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.